Session Amitié Contemplation, Père Philippe, 3 juillet 1997, Saint-Jodard, seconde conférence.
Je crois que si on restait encore 5 jours, il y aurait...
Mon père, il y a plusieurs questions qui toutes tournent. Enfin, il y a plusieurs questions qui se rapportent à un peu à la même chose. Vous avez dit hier une chose qui surprend.
Oui. Tant mieux. C'est original.
Ah, attendez, il faut que je retrouve ce
que j'espère que ça reste vrai. Parce que il y a certaines vérités qu'on ne dit jamais. Alors elles sont originales. Alors à ce moment-là, l'originalité peut être bonne parce que elle implique la vérité. Mais l'originalité pour l'originalité fait perdre du temps.
Donc cette question, plusieurs sont un petit peu formulées de la même manière. Vous avez dit qu'entre la passion et l'amour spirituel, il y a un stade d'amour entre guillemets romantique, idéal, et que cet amour peut être purifié. Vous avez plutôt dit allégé. Ou alourdi par l'imaginaire.
Oui.
Que l'imaginaire alourdisse l'amour, on le voit bien. C'est plus difficile de voir comment il peut l'alléger. De quelle manière?
Voilà. C'est un l'imaginaire peut être très alourdi. C'est les gros orages. Et il y a un imaginaire qui peut être spiritualisé, l'art c'est encore l'imaginaire fabriqué par l'un, mais c'est très spiritualisé. Et alors l'imaginaire à ce point de vue là peut jouer ce rôle de sublimer, de rendre les choses beaucoup plus légère, beaucoup moins lourde. Et l'art joue un rôle important dans l'éducation. Et ça, très souvent, on l'oublie. On considère très souvent l'art comme des choses secondaires. Alors que l'art reste une chose humaine et qui a la noblesse de l'art. Et là, d'une certaine manière, comprenez bien, peut faire que les passions, les anciens appelaient ça la catharsis, c'est-à-dire la purification. La catharsis fait que l'imagination, spiritualisée par l'art, une imagination, il y a des imaginations très belles, très douces, qui jouent un rôle de catharsis, de purification de la passion. Il y a une certaine purification de la passion qui peut se faire par là. Vous voyez que la lutte qui consiste à rejeter à la manière stoïcienne, il y a une manière plus douce de se prendre et de faire que les passions, à la place d'être arrêtées, réfrénées brutalement, les passions sont au contraire comme assumées et imaginaires. Jouer un rôle là. Mais il faut déjà être assez spiritualisé pour ça. Et c'est dans ce sens-là que je le dis. L'imagination n'est pas mauvaise. Dites-vous bien ça. On peut utiliser l'imaginaire d'une façon qui allège aussi, la plupart du temps, c'est ce qui arrive, l'imaginaire alourdi, appesanti. Et je crois que c'est important, surtout aujourd'hui. Vous voyez, l'art aujourd'hui, la musique, s'est étendue énormément. Et quelquefois, ce sont des musiques qui sont plutôt violentes, un peu sataniques. Alors qu'ils font du mal, qui n'apaisent pas. Mais il peut y avoir des musiques beaucoup plus paisibles qui apaisent. Là, l'imaginaire, pris au très grand sens du mot, peut aider à alléger la passion. Et j'aime te dire alléger. Pour bien montrer que ce n'est pas moral. L'imagination, c'est du côté de la connaissance. C'est pas immédiatement moral. Ce qui est moral, c'est tout ce qui touche l'amour. Mais ce qui touche la connaissance et ce qui touche l'imaginaire n'est pas immédiatement moral. Et alors, ça peut alléger dans ce sens-là. Vous avez raison. Parce que quand on dit certaines choses un peu rapidement, on ne voit pas. C'est bien, ça éveille.
Justement, il y a une question qui est alors tout à fait dans un autre domaine, mais Aristote parle beaucoup de la place de la vertu dans son éthique, de l'amour d'amitié, le lien entre l'homme vertueux et l'homme bon. Vous n'en avez pas beaucoup parlé pendant la session.
Non, je n'ai pas beaucoup parlé des vertus, c'est vrai, parce que on a peu de temps. Et je vais porter toute l'attention sur deux sommets. C'était le but de la session. Il y a deux sommets humains. Que souvent, surtout les philosophies contemporaines, laissent tomber. Et on parle énormément des choses intermédiaires. Ces deux sommets, c'est l'amour d'amitié. Or, l'amour d'amitié présuppose la vertu. Mais est au-delà de la vertu. Il y a des gens très vertueux qui ne savent pas ce que c'est que l'amitié, qui ne sont pas, selon l'expression du philosophe que j'aime bien, amicabilis. Être amicabilis, éveiller l'amitié, susciter l'amitié, permettre à l'amitié de fleurir, de s'épanouir. Si vous ramenez l'amour d'amitié aux vertus, si vous mesurez l'amour d'amitié par la vertu, vous étouffez l'amour d'amitié qui n'a plus cette liberté qui existe dans l'amour d'amitié. Parce qu'on a totale confiance l'un dans l'autre. Il n'y a rien qui détend plus une conversation amicabilis. Une conversation qui se réalise dans l'amitié. Parce que justement, on peut être détendu. Rien n'est plus fatigant que quelqu'un tendu. Un peu rien. On voit plus comment on peut la détendre. Il n'y a que l'arc tendu ou être tendu est une qualité. parce que souvent, on est tendu à cause de la fatigue. Mais celui qui entretient cela, alors fait que, forcément, le champ de la recherche diminue. On est très peu réceptif quand on est tendu. Très peu réceptif à la pensée de l'autre, à son affection. Très peu réceptif. L'arc tendu exprime la force avec laquelle il pourra lancer la flèche. Alors c'est une qualité. Et c'est vrai que dans ce cas-là, c'est une qualité. Quand on est dans un combat, une qualité, c'est d'être tendu. Mais quand on est dans une recherche intellectuelle, être tendu n'est pas une qualité. C'est très curieux, ça. Vous voyez, il faut relever les qualités de la recherche intellectuelle et les qualités de la recherche amicale. C'est pas les mêmes. C'est pour ça que prendre la recherche de la vérité et l'amitié, prendre la contemplation et l'amitié, met en pleine valeur les deux grands absolus de notre personnalité humaine. Avoir un ami, être aimé par un ami, montre le sommet affectif humain. Contempler ce qui est capable d'être contemplé, ce qui réclame d'être contemplé, c'est encore une qualité extrême de l'intelligence. L'intelligence ne peut pas être plus elle-même que dans la contemplation. C'est dans la contemplation que l'intelligence acquiert toute sa qualité d'intelligence. À ce moment-là, il y a un certain repos. Et ce n'est pas la tension. C'est difficile de se reposer dans la tension. La dialectique est toujours tendue. Et parce qu'elle est toujours tendue, elle ne s'achève pas dans la contemplation.
Il y a plusieurs questions qui tournent autour des rapports entre l'amitié et la contemplation. Peut-être je vous en lis deux ou trois, puis elles se recouvrent pour certaines. Si l'amour d'amitié ne peut pas être la fin ultime de l'homme, ce que vous disiez ce matin, en quoi l'amour d'amitié est-il un absolu? Puis d'autre part, est-ce que mon ami est moins mon ami lorsque je découvre l'existence du Créateur et que je me consacre à la contemplation? Donc autrement dit, est-ce que la contemplation relativise l'amitié? Qu'est-ce qui va changer dans mon amitié quand je découvre l'existence de Dieu et que je cherche à le contempler?
C'est très bien ça. Ça, c'est une très bonne question. L'amitié, bien que limitée, et n'étant pas l'absolu, au sens absolu, l'amitié demeure cependant pour moi une fin qui permet un certain repos. On se repose vieille amitié fidèle qui n'a cessé de croître. C'est ça quelque chose de beau. Vieille amitié a un poids extraordinaire et un absolu beaucoup plus grand qu'une amitié qui date d'hier. Si j'ose dire, hier j'ai rencontré mon âme sœur. J'ai rencontré enfin celui que je cherche, qui est un ami merveilleux. Tout de suite, on a trouvé qu'on était fait l'un pour l'autre. Alors on a envie de dire, vous savez, comme la mère de Napoléon, pourvu que ça dure. Parce que ces coups de foudre, c'est très beau. Dans un ciel orageux. Mais ça ne dure pas. Il y a les lendemains. Et le lendemain aussi, mais... qu'est-ce que je dis ? J'en suis complètement fou. Je suis complètement en dehors de mon horizon habituel. Qu'est-ce que j'ai fait ? L'amitié garde toujours, quand elle est vraie, un certain absolu. Mais elle ne peut pas être exclusive. Quand elle commence à être exclusive, ça prouve que la passion est là. Et je retourne dans une amitié passionnelle qui fait que on désire manger son ami. Comme ça, on est sûr que personne après moi ne pourra le manger. Je prends tout. J'absorbe tout. Et j'en suis jaloux. Terriblement jaloux. L'amour d'amitié n'implique pas cela. Véritable amour d'amitié, aimer l'autre pour lui-même, fait que je suis très heureux que mon ami soit aimé par un autre, puisque j'aime en lui ce qu'il y a de plus lui-même, sa personne. Si j'aime en lui ce qu'il y a de plus lui-même, sa personne, un autre peut l'aimer. Parce que je n'abîme pas. Au contraire, je désire que ce qu'il y a de plus lui-même puisse grandir et aller toujours plus loin. Donc je ne suis pas jaloux. Puisque l'amour d'amitié n'implique pas d'être l'absolu au sens le plus fort. Si je découvre un être invisible, premier Dieu, mon Créateur, sur le même plan. Dieu n'est pas de ce monde, n'est pas dans les relations, comme on dit aujourd'hui, horizontales. Tu es toute là, tu es tout dessus. Donc, Dieu n'est jamais rival d'un ami. Faire que Dieu, ou considérer que Dieu est le rival de l'amour de mon ami pour moi, ou de lui par rapport à mon amour, c'est faux. C'est l'imagination qui fait croire ça. Mais ce n'est pas vrai. Dieu ne peut pas être rival. Il est au-dessus. Il est au-delà. Je ne peux rien diminuer à Dieu. Je ne peux rien augmenter à Dieu. Mais je peux l'aimer. Et l'aimer en me donnant totalement à lui. Quand j'aime Dieu, je ne fais pas que Dieu et plus Dieu. C'est toujours gratuite. Donc, la découverte de Dieu par rapport à mon ami et par rapport à mon amour pour mon ami ne peut en rien diminuer cet amour d'amitié. Au contraire, parce que je pourrais regarder mon ami dans une nouvelle lumière, ce que je pourrais dire dans un jugement de sagesse, je sais que mon ami est aimé de Dieu. Je sais que l'âme de mon ami, ce que j'aime le plus, vient directement de Dieu. Et qu'il y a dans l'âme de mon ami des trésors que je peux découvrir de plus en plus. Et que Dieu seul connaît. Je sais que Dieu connaît mieux mon ami que moi-même je ne le connais. Or, si je l'aime vraiment, mon ami, je désire le connaître de plus en plus. Et je peux, à ce moment-là, demander à Dieu de me permettre de le regarder comme lui-même le regarde. Je peux très bien dire cela et m'appuyer sur certaines traditions religieuses, la tradition judéo-chrétienne, qui me dit est venu me sauver et qu'il m'aime comme un père et un sauveur. Et donc l'amour de Dieu pour moi dépasse infiniment l'amour de mon ami pour moi. Dieu est l'ami des hommes. Comme dans la liturgie orthodoxe, on aime de dire constamment, et c'est très beau, Dieu l'ami des hommes. Et il est le meilleur ami. Quand j'ai découvert, et quand je vois qu'il est source de tout amour, de toute lumière, de toute vie, et mon ami, que j'aime tant, n'est pas pour moi source de lumière, source de mon être, source de ma bonté. Et donc Dieu passe avant. Et Dieu passe avant, mais ne relativise pas l'amour que j'ai Et donc, je ne peux jamais relativiser Dieu. Si je ne peux jamais relativiser Dieu, je dirais l'inverse. Dieu ne relativise rien. Et je comprends très bien pourquoi. Pour relativiser quelqu'un, il faut être sur le même plan que lui. Je peux prendre la place de quelqu'un, et en prenant sa place, je le relativise. Il était toujours habitué à s'asseoir là. Quelqu'un s'est assis. Quand il arrive, la place est prise. Hein? Prendre la place de quelqu'un, c'est le relativiser. Surtout quand il y a beaucoup de monde dans le train. Et il comprend très bien que le relativise à ce moment-là. Et si j'étais Sartre, je dirais, je le néantise. Puisque j'ai pris sa place. Il n'y a plus de place pour lui. Donc je le néantise. Dieu ne néantise aucune de ses créatures. Parce qu'il les a créés par sa sagesse, par sa lumière, dans sa sagesse, dans sa lumière et dans son amour infini. C'est très important ça, de bien comprendre que Dieu, c'est le Créateur et il a des mœurs de Créateur.
La corruption
Dieu qui aime de voir l'amour d'amitié se développer et se développer dans le sens d'un véritable amour spirituel. Tu aimes cela, mais quand cet amour d'amitié se corrompt par la passion, alors Dieu peut intervenir. Dieu peut envoyer Saint Michel nous secouer. Là, je suis en théologie. Parce que le philosophe ne peut pas parler Saint Michel. Il l'a jamais vu. Et si le philosophe avait une vision de Saint-Michel, ce qui n'est pas exclu. Le philosophe peut avoir des visions, des révélations et des visions. C'est arrivé à Bergson. La Vierge Marie lui est apparue. Il n'a jamais parlé comme philosophe. Il a discoué. ne peux plus donner autant de temps à mon ami. Alors là, c'est vrai. Mais je répondrai, la découverte de Dieu me donne un nouvel amour, bien plus profond que tous les autres. Aimer mon ami avec une force, une volonté encore beaucoup plus forte, beaucoup plus grande. Je peux l'aimer avec le regard de Dieu sur lui. Je peux chercher à l'aimer. Force et cette véhémence. Donc, l'ami, le véritable ami, ne peut jamais perdre à la découverte de Dieu chez son ami. Au contraire, il comprendra mieux et plus profondément la grandeur et la noblesse de l'amour et les exigences de la fidélité dans l'amour. C'est surtout cela, un amour plus pur, un amour plus fidèle, un amour plus généreux. Voilà ce que la découverte de Dieu vient apporter à l'amitié humaine. Parce que Dieu est amour. Il ne peut pas être rival de l'amour. Il ne peut pas être l'ennemi de l'amour. Or, le philosophe peut dire que Dieu est amour. Aristote l'a dit.
Est-ce que je peux dire en philosophe que Dieu est mon ami ?
Engagé avec moi par la création de mon âme. De sorte que Dieu ne peut pas néantiser mon âme, seul Sartre. Le mot néantiser n'existe pas dans le livre de la sagesse. C'est une rage humaine, c'est une jalousie humaine, parce que même l'homme ne peut pas néantiser. Sartre n'a néantisé personne. Il a peut-être eu le désir. Je néantise. Aucun résultat. C'est très cru l'invention de ce mot. Mais la théologie dit que la création se fait à partir de rien. L'antithèse de la création, c'est le retour au rien, néantisé. pourrait néantiser sa sagesse. Ne lui permet pas de faire un acte aussi absurde, aussi peu aimable. C'est vrai, c'est pas très aimable de dire à quelqu'un « Va, je te néantise ». Les plus grands sorciers du monde ne peuvent pas néantiser.
Il y a deux questions aussi qui regardent l'aspect de l'amitié par rapport à la providence de Dieu.
Ah oui.
Si la fin de l'homme est l'amitié réciproque, Dieu prévoit-il dans sa providence que tout homme est un ami ? Comment comprendre que les hommes n'aient pas de véritables amis ? Et puis dans un autre point de vue, vous avez dit que toute personne est aimable, mais dans notre expérience, nous rencontrons des personnes qui ne sont pas aimables.
Triste expérience.
Que voulez-vous dire quand vous dites que toute personne est aimable ? Dans la providence.
Dans toute personne, il y a une amabilité qui est peut-être très cachée. Mais qui existe. Et puisque toute âme est créée par Dieu, et toute âme est un reflet de la bonté de Dieu, de l'amabilité de Dieu. Mais l'âme, je ne la vois pas. Je la vois à travers son corps. Or, le corps peut être manipulé. Or, le corps est abîmé par les conséquences du péché. C'est mon corps qui, lui, peut exprimer non pas l'amabilité de mon âme, mais la cacher. Et être source de quelque chose qui me repousse. Le contraire de l'amabilité qui m'attire. Quelque chose de hideux. Et qu'on ne veut plus revoir. On l'a vu une fois, c'est suffisant. C'est horrible. Ça fait vomir. C'est quelque chose d'insupportable. Alors, c'est vrai que, au point de vue visible, au point de vue des manifestations, et des manifestations humaines, des masques humains, sont hideux. Et ce n'est pas la personne humaine. Personne humaine abîmée par la maladie, pitoyable. Ce n'est pas hideuse. C'est quelque chose dans son sourire qui dévoilera alors, c'est la disproportion. c'est l'aspect chaotique. C'est l'aspect que je ne peux pas supporter. Parmi les propriétés de l'être comme tel, il y a la beauté. Tout être est beau dans son être. Mais de beauté extrêmement diverse. Et il y a toujours des beautés cachées. Parce que pour se découvrir réclame une certaine connivence, une certaine parenté. La beauté implique une certaine sympathie. Très souvent, parce que je ne me sens pas en sympathie vis-à-vis de lui. Alors il y a tout de suite une sorte de répulsion qui fait que je ne peux plus saisir sa beauté. Mesure où il est, est beau. La beauté est une et quasi propriété de ce qui est. Ce n'est pas un transcendantal. Je vous explique pas ce que c'est, parce que le transcendantal, c'est le vrai. Que tout être en tant qu'il est a une beauté visible ou cachée que je peux chercher et découvrir. Ce n'est pas un transcendantal, mais c'est une propriété de l'être. De l'être spirituel. De l'être visible. Mais quelquefois, justement, ça met très longtemps à découvrir. Vous voyez, quand on est à contre-jour, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit plus. Ils sont cachés. Et au fond, beaucoup de réalités demeurent à contre-jour. Parce que je les regarde à contre-jour. C'est un langage métaphorique, c'est sûr. Mais ça exprime bien cela, que pour découvrir le côté aimable d'un être, d'une personne, il faut me mettre dans une perspective spéciale, dans une certaine manière de le regarder. Alors à ce moment-là, il se dévoile.
Pourquoi dites-vous que la contemplation est une finalité, alors que si peu en vivent ?
C'est vrai. réalités les plus profondes, les plus sublimes, tout dépasse. La contemplation, ce que dit Aristote, le vieux philosophe, il nous dit la contemplation de Dieu, la vraie contemplation, est quasi divine. Elle n'est plus humaine. Elle est supra-humaine. Et c'est vrai. Et là, la finalité est toujours un peu supra-humaine. Puisque elle joue ce rôle particulier de me faire sortir de mon horizon et me mettre au-delà. C'est dans ce sens-là qu'elle est surhumaine. C'est dans ce sens-là qu'elle me dépasse. C'est pour cela que si peu la découvre. Et que si peu la découvre ne veut pas dire, ne veut pas condamner la contemplation. C'est plutôt peu d'hommes ont le courage de continuer de chercher la vérité jusqu'au bout, jusqu'à la découverte de l'existence de Dieu. Et à ce moment-là, c'est vrai que la contemplation me fait sortir de moi-même pour aller plus loin, pour aller au-delà de mes connaissances habituelles. Je ne contemple pas simplement, comme me disait une fois quelqu'un, des gens très curieux dans la vie apostolique. Et je me souviens d'avoir rencontré quelqu'un qui me parlait de son fauteuil contemplatif. Mais vraiment, il n'était pas fou, mais il s'affrôlait. Il avait son fauteuil. Un jour, je lui ai enlevé son fauteuil. Parce que moi, je pouvais m'asseoir. Ça ne me mettait pas dans un état contemplatif. Et lui, oui. Oui, son imagination était tellement forte qu'elle faisait que ce fauteuil, il l'aurait transporté au ciel, je crois, en demandant à Dieu de lui permettre de rester éternellement assis. La contemplation, elle ne vient pas du fauteuil, vous comprenez bien. Elle est intérieure. Elle est intérieure. C'est pour ça que la contemplation artistique est un reflet de la contemplation. Mais n'est pas la contemplation absolue, parce que elle est toujours visible, elle est toujours sensible. On peut être saisi par un très beau tableau, on peut être émerveillé et regarder, contempler. Instants, ça ne dure pas. Parce que la contemplation, la vraie contemplation,